au roi de France. Les Corses auront plus de courage que jamais à mettre leur vie et leurs biens au service de sa couronne. J'affirme à votre majesté que quand bien même je verrai les événements venir au point où il n'y a plus d'espoir, avec ou sans appui, je suis résolu à vivre et à mourir dans cette île, à son service, avec ceux qui voudront me suivre. Et si je ne puis faire autrement, je me retirerai dans ces montagnes pour y rester et de là faire une telle guerre à l'ennemi que moi vivant, il ne la possédera jamais en paix. Saint-Pierre ou Gourse, an de grâce 1555. Il était le plus grand guerrier de notre histoire, le plus redoutable, le plus craint. Abandonné de toutes parts, privé de tout soutien, il était revenu quasiment seul dans l'île pour affronter les Génois et mener sa propre guerre de libération. Il avait chevauché la Corse avec ses lieutenants brandissant les bannières vertes, portant l'aigle des Dalega, les derniers comtes de Cinarquet. Des milliers de Corses s'étaient ralliés à cet appel, formant une redoutable armée. Il avait combattu comme on n'avait jamais combattu en Corse. Lui, ses capitaines, qu'il avait suivis pendant les guerres d'Italie et qu'il aurait suivi jusqu'en enfer. Il avait tenu des années contre les Génois, leur imposant dans les montagnes une terreur qu'ils ignoraient jusqu'alors. Mais lui, le grand comte d'Authière et le géant de Bastet-Eliga, étaient tombés, abattus dans le dos par trahison. De face, il ne l'aurait jamais eu. La mort de Saint-Pierre aux Gourses en 1567 marque le triomphe de la République de Gênes après des décennies de guerre contre les Cinarchesi, puis contre le comte d'Authière. Le sud de l'île est exsangue, il est deux fois moins peuplé que le nord. Les régions de montagne ayant servi de base militaire aux rebelles sont vidées de leurs habitants. Les Niulins, qui pour avoir suivi leur comte, Gianpaolo d'Alega, ont connu un exil de 40 années. Gianpaolo d'Alega est mort, Saint-Pierre aux Gourses est mort, et avec eux, gît le rêve d'un royaume de Corse. Alphonse d'Ornano, le fils de Saint-Pierre et de Bagnina, s'embarque pour Marseille avec 300 fidèles. Il deviendra maréchal de France. Certains notables se précipitent pour faire valoir leur benemerenza, leur bonne volonté, eux qui ont toujours soutenu les Génois contre les rebelles et qui espèrent à présent retirer des avantages du nouvel ordre. Pendant ce temps, aveuglés par la haine et le chagrin, les plus fervents partisans de Saint-Pierre courent la campagne pour retrouver les responsables de sa mort et le venger. Oubré d'Ombrone, précepteur des enfants de Saint-Pierre ayant provoqué la fuite de Banine à Vergennes, est retrouvé et assassiné. Les règlements de compte se succèdent dans un climat délétère. Mais qu'ils aient été saint-pierristes ou pro-génois, tous vont devoir s'y faire. La guerre est finie, Gênes a gagné et pour 160 ans, c'est bien la croix de Saint-Georges de la Sérénissima qui va flotter sur la Corse. Certes, la guerre est finie, mais il ne faut pas pour autant s'imaginer que cette fin de XVIe siècle est à présent paisible. Un autre danger mortel rôde et frappe la Corse depuis des décennies. Le lointain imaginaire médiéval des Corses avait gardé en mémoire les faits d'armes d'Ugo Colonna et de ses compagnons, libérant la Corse des Sarrasins qui l'occupaient. Métaphore de quelques 200 ans de razzia entre le 9e et le 10e siècle qui avait durement éprouvé l'île et ses populations. Les flottes chrétiennes des cités d'Italie avaient vaincu et repoussé cet ennemi mortel dans ses confins d'Orient et durant 500 ans, on les avait oubliés. I Saracini étaient passés au folklore, évoqués seulement dans les fêtes villageoises par les mauresques, ces danses guerrières rappelant la victoire sur cette menace que l'on croyait révolue. Et puis, s'ajoutant au malheur de décennies de guerre civile ou contre Gênes, les années 1510 avaient vu se rallumer les feux venus de la côte. On les appelle i Turchi, car ils viennent de l'Empire ottoman. Mais en fait, la plupart viennent du Maghreb, des terres du Dé d'Alger. La piraterie maure frappe fort et partout, et une fois de plus, la Corse semble bien livrée à elle-même. Dans son ouvrage « La Corse génoise », Antoine-Marie Gradian y dresse un portrait riche de détails, d'analyses et d'anecdotes de cette période. Il explique ainsi l'intensité et la violence des attaques turques sur la Corse. Gênes est avant tout une puissance financière, avec peu de moyens militaires et peu de territoire. Pour survivre, ce que l'historien appelle un état croupion a besoin d'alliances avec des puissances étrangères. En ce XVIe siècle, c'est la couronne d'Espagne qui garantit la sécurité de la Sérénissime République. Au titre de cet accord, les Espagnols se rendent maîtres d'une partie de la flotte génoise. La Sérénissime ne peut plus contrer les Turcs sur mer, ils vont donc déferler en toute quiétude sur les rivages corses. Le Cap Corse, poumon économique de l'île, est le plus touché. En 1529, le gouverneur Salvago écrit « Les infidèles ont détruit tout le Cap Corse, obligeant quotidiennement les Cap Corsins à racheter les habitants qu'ils viennent de capturer et les réduisant ainsi à la plus extrême misère. » Contemporain des faits, le chroniqueur Anton Pedro Villipin y dresse une liste de 95 villages vidés de leurs habitants par les raids barbaresques. Une liste qu'il conclut par « et beaucoup d'autres villages ». Seulement une poignée seront réoccupées. Des milliers de Corses sont victimes de la traite esclavagiste. En 1539, la Vasine est attaquée. Bilan, 10 morts, 100 prisonniers. La même année, c'est Palasca qui subit les assauts des musulmans. 145 prisonniers, 22 morts. En 1544, c'est une flotte de 18 navires qui attaque la Corse et la dévaste. 187 prisonniers, sans parler des morts et des blessés. Parmi les chefs de guerre turcs qui se ruent sur la Corse, le redoutable corsaire Dragut. Il est capturé à Diruladu par Luchetto Doria. Influent et richissime, Dragut parvient à obtenir sa libération et il est bien décidé à se venger de l'humiliation de sa capture. Les représailles sont terribles. Il attaque Sartène en 1545, bilan 15 morts, 130 prisonniers. En 1549, c'est Montigelu qui tombe. 300 balanins sont réduits à l'esclavage. La liste des razzias est sans fin, interminable. Les Turcs sont parfois surpris par une tempête et contraints à un débarquement forcé. S'ils en ont l'occasion, les Corses jouent alors de sanglants matchs retour, traquant l'ennemi dans le maquis jusqu'au dernier, comme à Soudakaro où un Turc est décapité et on envoie la tête au commissaire génois d'Ajaccio. Somme toute, une preuve très concrète de la réalité de la menace. On peut se poser la question, que fait le pouvoir génois? Trop limité en hommes, il se contente de protéger comme il le peut ses présides et de favoriser le regroupement des populations en bourgs plus facilement défendables, comme à Sartène par exemple, ce qui n'empêchera pas la ville d'être mise à sac. C'est à cette époque que l'on met en œuvre la politique de construction du réseau des tours littorales. D'après Michel Verger-Franceschi, une vingtaine de tours sont bâties entre 1559 et 1575. Une centaine de tours en tout à la fin du XVIIe siècle. Elles sont censées abriter une garnison capable de retarder l'ennemi et allumer des feux pour alerter les villageois. Le réseau de fortifications remporte quelques succès, mais Antoine-Marie Gradian nous dit que, à peine construites, les tours sont difficiles à défendre. Certaines sont régulièrement attaquées, d'autres mal entretenues ou mal construites s'effondrent. Ajoutons à cela le fait que les effectifs militaires génois sont anémiques et que la construction et l'entretien des tours sont à la charge des insulaires. Elles font très jolies dans le paysage. C'est toujours ça de prix. Les siècles les ont revêtues de légendes. Le symbole puissant qu'elles laissent rappelle aujourd'hui la dureté de l'histoire des Corses. Elle rappelle combien cette mer a charrié de drames sur ses rivages. D'ailleurs, on peut s'interroger, comment un peuple aussi guerrier que les Corses ont pu subir de telles pertes sans parvenir à s'y soustraire. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais des milliers de Corses servent alors comme mercenaires sur le continent, notamment pour les nations d'Italie. Ce qui évidemment crée un manque sur le terrain, vu que les potentiels meilleurs combattants brillent sous les bannières de Rome ou de Venise. En fait, dans l'île, on se défend comme l'on peut, rendant coup pour coup. Mais le combat entre des militaires professionnels, aguerris et des paysans est souvent inégal. Et puis les Turcs frappent et se retirent, sans vraiment laisser le temps à une quelconque résistance de s'organiser. Et ils s'aventurent rarement loin à l'intérieur des terres. Mais surtout, les Corses sont désarmés. Le passif des révoltes avec Gênes est pour le moins lourd. Le gouvernement se méfie au plus haut point du penchant belliqueux des insulaires. Et depuis la chute de Sampiero, il impose une interdiction stricte des armes. Vu la situation, les conséquences sont catastrophiques. On peut lire dans La violence dans les campagnes corses d'Antoine-Marie Graziani que le lieutenant Niccolò Doria est parfaitement conscient que l'interdiction de port d'armes a coûté la capture de 500 Corses dans la région ajaxienne. Lorsque certaines tombent, les défenseurs n'avaient que 6 malheureux arquebuses pour se défendre. A contrario, armée de 25 arquebuses prêtées par le commissaire génois, la population de Biscoa doit repousser seule une attaque des Turcs. Ils savent se défendre, ces Corses. Et on peut imaginer leur frustration d'être désarmés par un État par ailleurs incapable de les défendre correctement. Les redoutables arquebuses à rouet, grande nouveauté du XVIe siècle, seraient d'un précieux secours. Les Corses sont prêts à tout pour en obtenir. L'arme est dans le pays l'objet de toutes les convoitises, et bien à contre-cœur, la République de Gênes sera régulièrement contrainte à accorder le port d'armes aux insulaires, en tout cas à ceux qui vivent près des côtes, car, objectivement, c'est souvent une question de vie ou de mort. Parmi ces Turcs qui pillent la Corse, des Corses. Esclaves convertis à l'islam, devenus janissaires, soit l'élite des armées ottomanes. En fait, il y a beaucoup de Corses au Maghreb en ce XVIe siècle. Des esclaves, beaucoup, mais pas seulement. Dans la roue d'Alphonse d'Ornans, les Corses ont constitué un puissant réseau à Marseille. Ce sont de riches entrepreneurs qui profitent de l'alliance entre les Turcs et le roi de France pour faire affaire en Afrique du Nord. Jean-Marie Harrig et Olivier Géas écrivent. Plusieurs Corses parviennent au sommet du pouvoir de leur nouveau pays. À Alger, le Dey Ali, ou encore à San Corso de Tahir. À Tunis, le Dey Mourad Orsini. Au Maroc, la célèbre Davia Franceschini, épouse favorite du sultan. Parmi ces Corses, de terribles corsaires qui, s'ils épargnent parfois leur village, se montrent très agressifs dans le reste de la Corse. Comme par exemple un certain Mami Corso. Il était né à Pinu, si chiamava Filippo. Filippo di Pinu est enlevé par les Maures comme beaucoup dans son village. Mais lui, il se convertit à l'islam et retrouve donc sa liberté. Devenu Mami Pacha, il se rapproche d'un autre Corse renégat, le puissant Hassan Corso, qui est en fait Pedro Balo di Davera. Intéressant de constater que la solidarité entre Corses se vérifie constamment au fil de l'histoire, qu'elle prie le Jupiter des Romains, s'agenouille sous la croix ou se prosterne vers la Mecque. Certains disent que Filippo et Pedro Balo auraient été amis de Sampiero, qui s'alliera d'ailleurs avec les Turcs dans sa guerre contre Gênes. Et on peut imaginer avec un certain délice, ce colonel du roi de France, craint et respecté, palabré avec ses alliés ottomans et aussi militaires de haut vol, palabre où la langue corse a dû créer une étonnante proximité pour une alliance aussi hétéroclite. Mais Sampiero est mort et les affaires sont les affaires. Mami Pacha a gagné des galons et va mener lui-même une série d'attaques dévastatrices contre sa propre patrie. Il frappe à Morcilia, Centur, Iborgo, Iscoado. La légende raconte qu'il avait ourdi une attaque dans son propre village. Alors qu'il remontait le sentier de Pinu avec ses hommes, un moine franciscain l'apostropha. Monti ergonimanco. Ta duisce tu nasce a te, Filippo, e a oabe gujo che tu si duintadu, erme in mano ed intorcadu, e pronta a fa magiru di adoiente, ma non ti vergogni?
Un si sa se tu si turco cristiano pure ebreo, ma che ti conosca appena fra te tu, un ciso che.
Le vieil homme n'était autre que le religieux qui lui avait appris à lire et à écrire lorsqu'il était enfant. Ébranlé, le redoutable Mami Corso fit reculer ses hommes, et jamais plus ses navires n'approchèrent de Pino.
On ti ramenti, quand eri in furcio.
L'aventure ne l'empêchera pas de poursuivre ses raids et de mettre violemment à sac Sartène en y capturant là aussi des centaines d'esclaves. Plus touchante, l'histoire de Filippo di Lota. Enlevé à l'âge de 9 ans, converti en apparence à l'islam et rentrant au pays 33 ans plus tard, aux commandes de sa propre galiote, avec une petite fortune amassée en une vie de piraterie pour couler une retraite paisible dans son village natal. Après des décennies de guerre, la démultiplication des attaques turques sème en Corse un chaos sans précédent. Une terrible violence subie que les insulaires ont bien du mal à rendre, tant les forces en présence sont déséquilibrées. Les sources de l'époque évoquent le chiffre hallucinant de 6000 Corses esclaves à Alger. Les villages comptent leurs morts, ne comptent plus les rapines, ni ceux partis comme esclaves en terre musulmane, contraints toujours à ravaler leurs souffrances et leur humiliation. Mais les Corses auront bientôt l'occasion de prendre une splendide revanche sur les Turcs. Nous sommes en 1571. L'Empire ottoman s'étend de plus en plus en Méditerranée. La puissance musulmane occupe la Grèce, les Balkans, l'Afrique du Nord et vient de prendre l'île de Crète aux Vénitiens après une conquête brutale. Les Vénitiens tiennent toujours le duché de Kandy en Crète avec la ville d'Héraclion. Ils résistent à la pression turque mais au prix de lourdes pertes. Parmi eux, de nombreux Corses partis se battre pour Venise sous les ordres du colonel Raffaello Giustiniani. Depuis le Maghreb, ce que l'on surnomme Idour qui ravage la Corse, mais aussi l'Espagne et l'Italie. Une situation qui, sur l'échiquier international, appelle à une réaction forte de la part du monde latin. Le pape Pie V réunit les puissances chrétiennes de Méditerranée pour stopper l'avancée ottomane. Venise, Rome, Gênes, le duché de Savoie ou encore la couronne d'Espagne forment la Sainte Ligue. Alliée des Turcs, la France est la grande absente de l'Union. À l'été 1571, marins et combattants des forces chrétiennes convergent vers Messine, une large union qui compte plus de 200 navires et près de 30 000 hommes. Parmi eux, de très nombreux insulaires. La Corse est un pays pauvre, montagneux, avec une forte démographie, une histoire violente et une culture guerrière. Tous les ingrédients sont réunis pour être un vivier de combattants dont déjà les Carthaginois dans l'Antiquité louaient la qualité des services. Le chroniqueur Antonpero Filippini affirme que dans les villages, à cette époque, les enfants de 8 ans s'exercent déjà au tir avec des arquebuses plus grandes qu'eux et touchant des cibles de la taille d'un écu. Les Corses forment, là où ils vont, des réseaux de solidarité tout à fait étonnants, contribuant à en faire de redoutables bandes armées, à l'image de Sampiero, débutant à 17 ans au service des Medici, dans la compagnie de Jean des Bandes Noires. En 1571, ils sont encore nombreux au service des Toscans, encore plus nombreux au service de Venise, où quelques années plus tôt, un certain Giogante e Gazabianca s'était forgé un nom en menant quelques 400 fantassins corses sur les champs de bataille d'Italie. On le surnommait Gigante Corso. Venise lève en 1570 600 soldats en Corse. Leur contingent montera jusqu'à 1500 hommes en 1613. Le gouverneur génois sera d'ailleurs exaspéré de voir autant d'insulaires servir dans les armées d'une si grande rivale. De nombreux insulaires servent aussi le duché de Savoie. À Rome, les Corses sont déjà des grands habitués de la cité et servent en nombre dans les armées des états pontificaux. Ils deviendront officiellement le corps d'élite de la garde papale quelques années plus tard. Corses également nombreux dans les armées génoises. Ils rendront d'ailleurs de fiers services à la cité régulièrement attaquée au cours du XVIIe siècle. Bref, plusieurs milliers de Corses servent dans les armées européennes, dont la plupart sont engagés dans la Sainte Ligue. Sous diverses bannières, ils attendent l'heure d'en découdre avec les Turcs dans les tavernes de Messine. Des mercenaires, mais pas seulement. Michel Verger-Franceschi nous apprend que l'armateur capcorsin Diagumo Negron y arme trois galères et une felouque construite en partie à Santa Sever. Son frère, Pedro Duagne, avait été tué par les Turcs de Dragut en 1555. Parti du port de Maginadio, à Gabidon, à Badrona, à Vastarda, à Guarta, et leur équipage de marins capcorsins font voile, elle aussi, vers Messine, pour rejoindre la flotte chrétienne et les galères génoises de l'amiral Giovan Andrea Doria. Au mois d'octobre 1571, la Santa Lega se met en branle et vogue vers la Grèce et le golfe de Patras pour affronter la flotte turque forte de quelques 300 navires dans ce qui sera l'un des plus grands combats navals de l'histoire, la bataille de Lépante. Le 7 octobre, à l'aube, la Sainte Ligue se glisse dans le golfe de Patras en Grèce et se trouve face à face avec le mur de bois que représente la flotte turque. Par un large mouvement de balai, Jean d'Autriche parvient à isoler les navires turcs dans ce golfe, interdisant toute sortie. Les navires espagnols partent à l'abordage avec leur infanterie lourde qui se rue sur les bateaux turcs, appuyés par la précision redoutable des galères génoises. Les ponts se changent en champs de bataille. Assaillis de toutes parts, les navires musulmans tombent les uns après les autres. Pendant ce temps, les marins de Rolian ou de Toumine ou de Santa Severa s'illustrent au combat. Les galères capcorsines guident les immenses galéas vénitiennes chargées d'artillerie qui roulent littéralement sur les navires turcs éparpillés et enfoncent l'aile gauche du dispositif musulman. Les canons tonnent et éventrent les vaisseaux turcs qui s'embrasent. Dans les rangs musulmans, la panique est totale. Un corps d'armée turque parvient à s'enfuir, deux autres sont anéantis. Les amiraux ottomans, Ali Pacha et Mohamed Sirocco sont décapités, leurs têtes enfoncées à la pointe des plus hauts mâts des vaisseaux espagnols. Des galères turques sont libérées des milliers d'esclaves, dont plusieurs centaines de Corses, qui rentreront chez eux aux côtés des navires du Cap. Eux, couverts d'une indicible gloire qui marquera jusqu'à nos jours l'histoire populaire des Corses. Aujourd'hui encore, on peut voir dans certains villages, notamment dans l'église de Rogliano, des représentations de Notre-Dame du Rosaire, sainte célébrée le 7 octobre en mémoire de la bataille. Lépante est l'une des plus grandes victoires de l'histoire de la chrétienté, et il ne fait aucun doute que les Corses y ont participé en très grand nombre. Vu le contexte, la bataille a dû représenter un espoir immense dans une Corse ravagée depuis des décennies par d'incessantes razzias. Mais hélas, comme dit la sinistre expression corse, un enancuno tempero. Dans son histoire de la Corse génoise, Antoine-Marie Gradien y écrit « La période entre 1570 et 1620 est la plus noire de la course musulmane autour de l'île. La situation ne cesse de se dégrader. Les flottes sont toujours plus nombreuses. Des semaines, des mois durant, elles tournent et retournent aux aguets. Plus un pouce des côtes corses ne paraît à l'abri. » Pendant que Sartène, Arbellara ou encore Calvez sont ravagés, les Corses continuent à bâtir des tours, à acheter tout ce qu'ils peuvent d'arquebuses au marché noir, à fortifier les maisons, à renforcer les villages en surplomb de la mer et à s'organiser des zones de repli en cas d'attaque, comme à Pedragurbar, où le cri consacré dit « Scapem a Grottavornina, Gheidur qui bene l'Obera Marina ». Et puis, comme si ça ne suffisait pas, cette période est celle d'un petit âge glaciaire. Une série d'hivers longs, rudes, paralysant sous des mètres de neige tout l'intérieur montagneux de l'île. L'économie de subsistance en Corse, valeur sûre, éternelle des insulaires, est mise à rude épreuve. Antoine-Marie Gradien, il nous apprend que les Corses se nourrissent d'herbes imparfaitement assaisonnées, font du pain avec tout et n'importe quoi, comme par exemple des glands ou du chien-dent. Le vol de nourriture, déjà historiquement très mal vu dans l'île, se solde à coups d'arquebuse et l'on traque à cheval dans la neige le moindre voleur d'oignons. Le podestat de Bastia déclare en septembre 1591 « La faim, portrait de la mort épouvante l'homme autant que la mort elle-même ». Il demande l'interdiction de l'exportation du blé par crainte de pénurie. Les autorités génoises ne cessent d'intervenir pour réguler le marché. Sur un territoire où la population est répartie dans les campagnes, sans grande ville, la chasse, la culture des jardins et l'élevage de porcs, de moutons et de chèvres évitent de franchir le palier qui sépare disette et famine. C'est là la grande force de la Corse de l'intérieur qui, bon an mal an, s'en sort toujours. Tous les territoires d'Europe n'auront pas, si je puis dire, cette chance. Le XVIe siècle s'achève ainsi, dans une ambiance assez chaotique, ballottée entre le feu des Turcs et les glaces de l'hiver. Il aura été un siècle dur, de guerre, de répression et d'agression extérieure. Mais c'est aussi un moment où Bastia et Ajaccio grandissent et voient s'ériger en leur sein de magnifiques églises, où les marins capcorsins étendent toujours plus leurs réseaux commerciaux en Italie, où l'on réfléchit à des politiques agricoles, où l'on bâtit des forges, où l'artisanat se développe. Tout n'est pas si noir. Qui sait ce que réserve le XVIIe siècle aux Corses, sous la croix de Saint-Georges de la Sérénissime République de Gênes.